Bonjour à tous, bienvenue dans 7 jours dans le monde. Vous le savez, chaque semaine, on revient sur l'actu international de la semaine. Et tout va très très vite. C'est la raison pour laquelle, de temps en temps, on s'arrête sur un dossier particulier. De quoi on vous parle assez souvent? De terrorisme. Le terrorisme qui frappe en Europe, en Asie centrale, au Moyen-Orient. Mais pas que. L'Afrique aussi est confrontée. L'Afrique, l'Égypte, la Libye, le Nigeria. Et bien sûr, le Sahel. Vous en souvenez, c'est là où Emmanuel Macron s'était rendu quelques jours après son élection au Mali sur la base militaire de Gao. Oui, gros plan sur l'Afrique. L'Afrique, un pays d'1 milliard d'habitants, 2 milliards à échéance 2050. Oui, l'Afrique a souvent eu l'image, d'un continent meurtri. Mais il faut nuancer, bien entendu, Tout n'est pas monolithique. Le continent n'est pas fait que de guerres, que d'attentats, que de despotes. Alors, comment va l'Afrique? C'est parti pour 7 jours dans le monde.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et avec Olivier Zajac. Bonjour Olivier.
Bonjour Fabrice.
Qui est maître de conférence en sciences politiques à Lyon 3, enseignant à l'école de guerre, auteur et ça sort. C'est sorti donc en juin. Frontières des confins d'autrefois au mur d'aujourd'hui avec beaucoup de cartes. Vincent Hugeux, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Vincent Hugeux qui est grand reporter à l'Express, auteur, on va le rappeler. Donc puisque c'est l'été, Reine d'Afrique, le roman vrai des Premières Dames. En attendant le prochain, oui, c'est le roman autour des First Lady africaines. Oui, l'Afrique, un continent, je le disais, d'1 milliard d'habitants. Le terrorisme, c'est vrai, on vous en a parlé toute l'année sur 7 jours dans le monde, sur BFM Business, à la télé, à la radio, des grandes villes européennes qui sont touchées, c'est Londres, c'est Paris en Asie centrale, c'est Kaboul, c'est Téhéran également, Bagdad évidemment au Moyen-Orient. Et l'Afrique aussi y est confrontée avec plusieurs groupes qui sévissent, Acmi, Algérie, au Mali par exemple, Al-Morabitoun au Mali, au Burkina Faso, Daesh en Égypte, en Libye, Ansar al-Sharia en Libye, Boko Haram bien sûr au Nigeria, les Chebab en Somalie, au Kenya. C'est Mathieu Guider qui a publié un atlas de l'islamisme qui vient aussi de temps en temps dans 7 jours dans le monde. Comment l'islamisme prospère sur le continent africain, Vincent Hugeux?
Comme toujours, il y a un terreau qui peut être propice, c'est celui de la frustration sociale, c'est celui de l'échec économique, et c'est aussi, il faut le dire, la ténacité, la pugnacité de ces réseaux qui sont capables, via des petites madrassas, c'est-à-dire des écoles coraniques locales, via aussi tout un réseau de mosquées, qui ont été parfois d'ailleurs amplement financées par des bienfaiteurs du Golfe, que vous pouvez faire pénétrer ce type d'idéologie. Et le grand défi auquel se trouvent confrontés beaucoup des pays que vous avez d'ailleurs mentionné à l'instant, Fabrice, je pense par exemple aux pays de l'ère sahélienne, c'est que lorsque vous avez une structure étatique qui est faible, parce qu'elle est neuve ou parce qu'elle a été altérée par des conflits locaux de type ethnique, régionaliste, communautaire, etc., évidemment, vous ouvrez là une porte à ce type d'idéologie, à ce type de canal qui vient s'engouffrer sur ce terreau-là. Donc c'est la vraie difficulté aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez pourtant, on le dit souvent, et en partie à juste titre, on dit par exemple que l'islam confrérique, celui du Sénégal, vous avez les grandes confréries Tidiane et Mourite, par exemple, au Sénégal, est d'une certaine manière ontologiquement immunisé contre l'outrance, le radicalisme violent, etc. Alors, c'est pas faux. C'est vrai que vous avez là une sorte de protection, parce que vous avez un enracinement social profond, relayé dans les villages, dans les quartiers, mais ça ne veut pas dire du tout que vous êtes immunisé ad vitam aeternam.
À l'abri,
parce que là encore, là où il y a tension, conflit, frustration sociale et économique, vous ouvrez la possibilité, vous ouvrez un comptoir sur lequel, ces gens viennent offrir leurs produits frelatés.
Olivier Zajac, votre livre Frontières, c'est vrai que dans cette région, notamment puisque je parlais du Sahel, où on y reviendra dans un instant à l'occasion du déploiement de la force Barkhane, les frontières, elles sont poreuses. L'islamisme radical se joue des frontières.
L'islamisme radical se joue des frontières, effectivement, parce qu'en Afrique, structurellement, le manque d'État, la faiblesse de l'État offre en réalité un théâtre, une ouverture à ces mouvements qui métastasent, qui se nourrissent de la faiblesse de l'État. Un État qui n'est plus en mesure de mettre en place des stabilisateurs automatiques, de faire jouer la cohérence, la cohésion de la société, d'ouvrir des horizons, en particulier à la jeunesse. On connaît la jeunesse du continent africain avec une démographie qui est galopante. Le continent africain, il faut toujours, quand on parle du terrorisme, revenir au plan humain là-dessus. L'Afrique, elle est en 2010, elle a passé le milliard d'habitants. C'est-à-dire qu'en 50 ans, elle a quadruplé sa population. En 2050, on atteindra les 2 milliards d'habitants. Avec une jeunesse effectivement bouillonnante qui attend de la part des États des perspectives, des horizons. Si ces perspectives sont bouchées, si ces horizons n'existent pas, effectivement, les métastases du terrorisme, les métastases de ces mouvements vont continuer à se répandre. Et là, on a une problématique générale qui ne concerne pas seulement les Africains, mais qui nous concerne, et on le sait que trop bien.
On est juste en face, en effet. Je le disais, donc, il y a un certain nombre de groupes qui prospèrent. J'en ai cité quelques-uns dans des coins extrêmement divers de l'Afrique, hein, les Chebab, Al-Murabitoun, Hakimi. Est-ce que l'Afrique pourrait être la future place forte de Daesh une fois que Daesh aura été donc rayé de la carte, leurs combattants de Syrie, d'Irak? Est-ce qu'il peut y avoir un repli ou pas?
Alors, Vincent, il y a une tentative patente sur la Libye aujourd'hui.
Oui.
C'est-à-dire que les stratèges de Daesh ont cru à un moment donné, dès lors qu'il apparaissait clairement que la continuité territoriale du califat procédait de la chimère, et c'est le cas aujourd'hui avec la perte imminente, ou en tout cas prévisible, de Mossoul côté Irak, de Raqqa côté syrien. Ils ont cru donc que notamment la zone de l'est de la Libye et de certaines poches du sud pouvaient constituer une forme de sanctuaire. Ça n'est pas aussi simple que cela. Parce que, de l'aveu même de partenaires d'interlocuteurs libyens que j'ai consultés récemment là-dessus, l'enracinement Daesh, État islamique venu de Syrie et d'Irak, ou d'autres secteurs du monde d'ailleurs, et regroupés là, ne se fait pas automatiquement. Vous avez des résistances notamment tribales. Il ne faut jamais oublier, sans faire d'essentialisme culturel, que la structure, l'ossature tribale est extrêmement puissante en Libye. Et que la connexion ne se fait pas nécessairement. Prenez le cas du Sahel. Comment certains mouvements de type djihadiste ont réussi à s'enraciner au début, avant même d'attaquer, je dirais, Bamako? Et par des mariages, par exemple, tout simplement. Donc, en réussissant à s'inscrire dans le tissu social local.
Ouais.
Bon, en jouant aussi avec l'argent, le prestige, tout ça. Mais voilà, pas aussi simple. Alors, ça veut dire qu'à mon sens, l'idée, alors qui est à la fois intellectuellement séduisante et effrayante, d'une sorte de fusion dans un même creuset, d'une sorte d'international terroriste homogène, est une idée qui n'a pas de réalité. Parce que quand vous évoquez, ce que vous avez fait tout à l'heure, Fabrice, certains de ces mouvements, quand vous regardez leur pédigré, quand vous regardez même leur corpus idéologique, leur modus operandi, etc., ça n'est pas la même chose. Et alors, bien sûr, on a souvent, et à juste titre, souligné qu'il y avait des contacts, des canaux, etc. Mais enfin, vous n'avez pas un grand marionnettiste qui, tout en haut de la pyramide, dit tiens, on va prendre un petit bataillon d'Al-Shabaab et on va les envoyer au Sahel.
Non,
ça ne fonctionne pas comme ça.
Olivier Zajac.
C'est toute la problématique. Vincent a totalement raison. C'est toute la problématique, cette expression qu'on utilise tout le temps. On l'utilise depuis 15 ans et on l'utilise trop. La guerre au terrorisme. Nous empêche de comprendre.
Sauf si on met un X et un S.
C'est la guerre au terroriste. Avec un S, ça nous permet de comprendre le terreau humain, la contextualisation, la situation qui est celle de l'État, du pays, des circulations, effectivement, entre groupes culturels, entre tribus. Là, on a une approche qui est intelligente. On peut éventuellement trouver des solutions. Ce sont des solutions qui ne sont pas définitives, mais au moins, ce seront des solutions à peu près réalistes. Dire guerre au terrorisme, c'est-à-dire qu'on va combattre un mode d'action. C'est penser qu'il y a une internationale terroriste, effectivement, essentialisation sur le plan du mode d'action. On se trompe totalement de sujet. Ce sont des adversaires. Ce n'est pas un ennemi, effectivement, qui tire les ficelles. Attention, là, on peut pas avoir de politique publique efficace si on reste sur cette illusion un peu idéologique, la guerre au terrorisme. Il n'y a pas un seul ennemi. Il y a des situations humaines contextualisées. Il faut les prendre en compte.
Alors, les terroristes présents en Libye, vous le disiez, Vincent Jules, c'est d'ailleurs de là que les commandos qui avaient tué des Coptes en Égypte, donc c'était début juin, étaient partis. Le terrorisme aussi au Sahel, c'est actuellement la plus importante opération extérieure des troupes françaises. 4000 militaires déployés par la France, dont la majorité au Mali, essentiellement à Gao, 1700 militaires avec des détachements à Kidal, à Tessalit, c'est bien sûr l'opération Barkhane, donc lancée en août 2014, après Serval, déployée au Tchad, au Niger, au Mali, en Mauritanie, au Burkina Faso, 5 pays de la bande sahélo-saharienne. C'est grand comme l'Europe. Les combats sont très durs. On a vu début juin, par exemple, des Mirage 2000 déployés, des hélicoptères d'attaque Tigre, avec des dégâts côté français aussi, hein.
là aussi, il faut essayer de porter un regard analytique et lucide. La légitimité de l'engagement français, initialement avec Serval contre l'épopée djihadiste au Mali, puis élargie sur cette ère sahélienne que vous venez de dépeindre à l'instant, ne fait pas l'ombre d'un doute. Simplement, aujourd'hui, on a tendance à présenter Barkhane, côté Sahel, comme d'ailleurs l'opération Sangaris en Centrafrique, comme les grands succès du mandat de François Hollande. Eh bien, navré de casser l'ambiance, mais non, non. D'ailleurs, Barkhane, aujourd'hui, est une opération qui est à bout de souffle, parce que ses effectifs, évidemment, ne peuvent pas couvrir l'immensité, 5 millions de kilomètres carrés que vous venez de rappeler, parce que aussi les matériels sont terriblement éprouvés. Moi, je me souviens quand je suis allé, par exemple, passer une semaine à Madama, à l'extrême nord du Niger, qui est une base avancée Barkhane, qui regarde vers la Libye, précisément. Bien. Eh bien, les pilotes vous expliquent, par exemple, que le taux d'usure, en quelque sorte, d'épuisement d'un hélicoptère, à cause du sable, du vent, de la chaleur extrême, etc., etc., c'est un ratio de 1 à 10. Un hélicoptère se fatigue 10 fois plus vite. Donc, ça veut dire en termes d'entretien, ça veut dire en termes de maintenance, en termes de fatigue des hommes, etc. Donc, aujourd'hui, le dispositif Barkhane est à bout de souffle. C'est la raison pour laquelle les Français essayent, autant que faire se peut, de transmettre le témoin. Alors, vous avez le cas classique de la transmission de témoins à une opération de type ONU, en l'occurrence MINUSMA au Mali. On essaye d'embarquer nos partenaires allemands. Bon, on se prévaut de succès qui sont encore virtuels, à mon avis, là-dessus, parce que les Allemands y vont à reculons, et pas seulement pour des raisons historiques et culturelles, mais aussi pour des raisons opérationnelles. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, même si tout cela sort un peu des écrans radars de l'actualité, il ne se passe pas une semaine sans que vous ayez, autour de Gao, de Tombouctou, et maintenant plus au sud, Mopti, c'est-à-dire le centre même du Mali, cette sorte de goulet d'entrecollement qui ensuite ouvre sur ce qu'on appelle le Mali utile, qu'il soit le théâtre d'une attaque. Alors, ça n'est pas spectaculaire, c'est pas de la guerre conventionnelle, loin s'en faut, c'est une embuscade, c'est ce qu'on appelle un engin explosif improvisé, IED en anglais, etc. Mais ça entretient un climat, une atmosphère d'insécurité qui, précisément, empêche la stabilisation politique dont nous disions tout à l'heure
qu'elle était comme combat.
La condition sine qua non. Non, mais bien sûr, je veux dire que simplement c'est, là encore, soyons un peu anglophones une seconde, c'est un never ending story. C'est-à-dire qu'on peut entrer comme ça dans un cycle long. Or, encore une fois, la France est en train d'épuiser ses ressources budgétaires. Juste un mot. 600 millions d'euros de dépassement budgétaire de l'opération Barkhane depuis son lancement. À un moment donné, ça finit par peser.
Olivier Zajac, la lutte contre le terrorisme, est-ce qu'elle passe uniquement par le militaire ou est-ce qu'elle doit passer aussi par le social, par l'éducation ?
Effectivement, ça ne passe pas que par le militaire. Alors, attention, il faut que le militaire soit là, qu'il y ait une action de force raisonnée pour déverrouiller politiquement la situation. Parce que il faut pas rêver non plus. On ne déverrouille pas simplement une situation en négociant. Il faut une action de force raisonnée, parfois implacable, décisive. Ce que les Français ont réussi à faire à Serval. Serval, c'est une victoire tactique et opérative. Est-ce que ce sera un succès stratégique ? Ça sera un succès stratégique si c'est régionalisé. C'est régionalisé, ça sera un succès si effectivement on mélange et on marie et on fait rentrer en complémentarité l'aspect militaire et l'aspect économique, social, civil. Mais alors ça, c'est un débat et un enjeu qui dépasse largement les seuls moyens de la France. L'Europe, l'Union africaine d'autres partenaires sont attendus.
Oui, alors comment va l'Afrique ? On continue justement, parce qu'on a parlé largement du terrorisme. Est-ce que vous expliquez, ce qu'on disait tout à l'heure dans votre livre Frontières, Olivier Zajac, tout ça est très poreux. L'ensemble du continent également, vous consacrez plusieurs chapitres aux migrations. On parle beaucoup des migrations donc, actuellement et dans l'actualité donc, qu'on commande dans 7 jours dans le monde. C'est un continent de migration, l'Afrique. Les frontières sont très poreuses. La conjonction de flux humains de plus en plus important, ce que vous expliquez.
Oui. C'est vrai, on voit l'Afrique comme un continent qui se vide, dont les veines sont ouvertes, dont la jeunesse, dont les élites partent pour aller en Europe, pour aller dans d'autres, dans le Golfe, parfois maintenant et de plus en plus certains, il y a des filières aux États-Unis, en Amérique du Nord. Il n'y a pas que cet aspect. Attention, bien sûr, c'est un continent qui est marqué par une hémorragie, des migrations subies. Il y a des conflits, il y a des tragédies humaines. Mais celui-ci, c'est un continent qui est marqué par les migrations internes. Quand vous regardez la situation, par exemple, en République démocratique du Congo, il y a un différentiel quasiment de 1 à 8 entre l'émigration vers l'extérieur, hein, en dehors de l'Afrique, et l'émigration à l'intérieur du pays. Les migrations intra-africaines sont en train de créer des tensions, des oppositions, parfois un racisme vis-à-vis des migrations. Regardez la situation en Afrique du Sud depuis des années. On n'en parle pas assez effectivement. On voit toujours, hein, de notre point de vue, la Méditerranée, le front méditerranéen, la situation.
En Afrique du Sud, par exemple, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu des tensions racistes, hein, vis-à-vis de travailleurs qui venaient de pays du Nord. Du Zimbabwe, par exemple, du Botswana aussi,
de Tanzanie aussi,
Vincent. Ça fait partie des points de crispation de l'Afrique.
C'est un excellent exemple. L'Afrique du Sud, et à bon droit, apparaît toujours comme une des locomotives économiques.
En récession, hein, on l'a appris début juin.
On y reviendra effectivement avec des taux de croissance qui ont fléchi.
Première fois depuis 2009.
Très sensiblement. Mais vous comprenez qu'il y a, au-delà de ça, il y a la charge symbolique. L'Afrique du Sud, c'est le pays qui s'est sorti douloureusement de ce racisme d'État qu'était l'apartheid. L'Afrique du Sud, c'est le pays de Madiba, de Nelson Mandela, l'icône qui fait l'admiration de toute une génération continentale aujourd'hui. Et même dans ce pays-là, ces tensions sociales, elles conduisent à des comportements xénophobes actifs. Car vous avez eu non seulement ce racisme latent, mais vous avez eu des pogroms, vous avez eu des chasses à l'homme. Bon. Et ça signifie, là encore, que ce que nous évoquions à l'instant par rapport au terrorisme reste valide. C'est-à-dire que lorsque vous avez une carence en termes de gouvernance, alors, dans le cas du terrorisme, ça veut dire que vous ne parvenez pas à transférer une victoire militaire en succès politique, mais ça veut dire aussi que vous attisez dans un public frustré, qui voit donc dans l'étranger le bouc émissaire idéal, les rancœurs que l'on a connues par ailleurs.
On parlera de l'économie tout à l'heure, les migrants, les jeunes qui quittent leur pays, évidemment c'est un handicap pour l'économie de ces pays, Vincent Hugeux.
Oui, parce que si vous voulez, l'atout démographique, on le disait tout à l'heure, on parle maintenant même d'une projection à 2,4 milliards d'habitants à l'horizon 2050, ce qui fait que un humain sur quatre, au mi-temps de ce siècle, sera africain.
Bon.
Donc, pas d'affolement, c'est un atout. Mais c'est toujours pareil. La jeunesse urbaine, la jeunesse active, entreprenante, elle n'est un atout que si elle a des vecteurs dans lesquels s'investir. Et on est vraiment là, dans une réalité à laquelle sont confrontés des pays qui apparaissent pourtant comme des moteurs. On évoquait l'Afrique du Sud côté austral, vous avez le Nigeria, vous avez la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire elle-même, qui déjà au temps de Félix Houphouët-Boigny, le patriarche de l'indépendance, passait à juste titre pour la loco de l'économie ouest-africaine, qui après cette parenthèse sombre des années 2000-2015 tendait à le redevenir, bien vous avez eu dans les semaines écoulées
une série de mutineries.
Qui ont ébranlé l'autorité et l'assise du pouvoir politique. Vous êtes investisseur français aujourd'hui, européen.
On se pose des questions.
Vous dites, les chiffres sont bons, les indicateurs sont parfaits. Mais enfin, il n'y a pas de disjonction entre des statistiques qui seraient miraculeuses ou prometteuses et une réalité sociale et politique qui, évidemment, peut, le cas échéant, compromettre votre propre aventure.
Alors, des guerres, des conflits qui resurgissent, ça et là, vous avez cité donc ces mutineries en Côte d'Ivoire, on a parlé de ces tensions racistes donc en Afrique du Sud vis-à-vis d'autres travailleurs venus de pays du Nord. La République centrafricaine, apparemment donc au bord de l'abîme, des guerres au Sud-Soudan, bien sûr, en RDC, des conflits, hein, toujours dans l'Est du pays. Autre fléau, c'est la piraterie maritime, Olivier Zajec, dans la Corne de l'Afrique. Dans le golfe de Guinée également, c'était début juin à Yaoundé, la seconde phase donc d'une opération menée sous la bannière de l'Union européenne, avec 19 pays africains, pour combattre la criminalité maritime sous toutes ses formes. 6000 kilomètres, hein, quand même, qui vont du Sénégal jusqu'à l'Angola. Pas simple à surveiller.
C'est pas simple à surveiller, d'autant qu'il y a eu un point de bascule en 2012. En 2012, pour la première fois, les attaques, effectivement, et les coûts induits sur le commerce international sont devenus plus importants dans le golfe de Guinée que dans l'endroit qui était jusqu'ici traditionnellement le lieu dont on se préoccupait, le pirate en Afrique. C'était d'abord le golfe d'Aden, c'était la Somalie.
Bien sûr.
Et tout d'un coup, on voit se mettre en place une sorte d'axe du point de vue géopolitique entre la Corne de l'Afrique et le golfe de Guinée. Et là, on retrouve dans le golfe golfe de Guinée, pas simplement la piraterie au non, sens classique. Un peu étroit, puis celui de l'article 101 de la convention de Montego Bay, hein, c'est un peu technique.
Où on attaque des bateaux, on pique ce qu'il y a dessus,
c'est brigandage, c'est effectivement les vols, et là du point de vue économique, c'est la même chose. Oui. Piraterie, brigandage, vol, etc., avec des morts de plus en plus violents, et là la nécessité donc, si vous dites Fabrice, hein, sommet Yaoundé 2013, la mise en place d'une logique interrégionale, avec un centre de coordination interrégionale, d'une réponse, mais qui nécessite la collaboration de pays qui, pour l'instant, n'arrivent pas vraiment à collaborer. Il y a beaucoup de déclaratoires. J'étais il y a quelques mois, en octobre, au sommet de Lomé, sommet justement sur l'économie maritime, sur la piraterie maritime. J'ai assisté à des discussions entre responsables africains. Tout ça va dans le bon sens. Les débats étaient de très bonne qualité, etc. Mais après, sur le suivi des décisions... Mais ça c'est la maladie, une maladie un peu du continent. Tous les pays ne sont pas égaux là-dedans, mais il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de véritable efficacité du point de vue du suivi des décisions. Donc, piraterie, on s'en occupe, mais il n'y a pas pour l'instant vraiment de grands résultats. Il y a des choses qui se mettent en place, hein, mais aujourd'hui, concrètement, on attend encore les résultats.
Et c'est vrai, Vincent Hugeux, pour lutter contre tout ce qui est piraterie, enlèvement, trafic de drogue, pêche illégale aussi, n'oublions pas ça aussi, parce que là, c'est le grand massacre parfois, vol de cargaison de pétrole. Bon, on voit des pays africains qui ne sont pas toujours bien armés. Et idem, par exemple, pour lutter contre le terrorisme. On revient sur le sujet précédent, justement. Formation, matériel, qui font défaut dans des États qui n'ont pas un rond, hein, pour certains.
Oui, il y a une fragilité, encore une fois, de type étatique. Vous avez des failles de nature, effectivement, budgétaire, de moyens. Et alors, ce qui m'apparaît patent aujourd'hui, c'est que vous avez une sorte de disjonction entre la volonté affichée, la pertinence du constat, de l'analyse, au travers de ce type de conférence internationale. Là-dessus, il y a peu d'espace pour la controverse et traduction en termes concrets. Pour vous donner un exemple très simple, moi je me souviens par exemple de l'époque où vous aviez une institution, un organe qui s'appelait le CEMOC, qui était censé se charger justement de la coordination de la lutte antiterroriste dans la zone sahélienne, etc. Et un officier burkinabé que je connaissais bien, qui travaillait dans un service de renseignement, m'a dit un jour écoute, moi je suis censé être le représentant de mon pays dans cette coquille vide, je n'y vais plus. Parce que de la dimension proclamatoire la traduction dans les faits, il y a toujours un espace, et un espace dans lequel s'engouffrent des stratégies nationales, de vieilles rivalités régionales, des querelles de préséance à l'échelon de la sous-région, etc., etc. Et je dirais que ce qui est la maladie infantile, la malédiction s'il y en a une, et je sais que je suis réfractaire à ce type de vocabulaire, je dirais quasiment mystique et religieux, mais c'est ça la vraie difficulté, c'est le fait de passer au-dessus de certains invariants historiques en se disant, voilà, ok, il y a eu des contentieux, il y a des dimensions. Mais maintenant, l'urgence est vitale. Donc...
Oui, Olivier Zajac.
Après, et on se retrouve il y a la possibilité de certaines solutions. Bon, Vincent le rappelle, par exemple, il y a des querelles de frontières maritimes entre certains pays du golfe de Guinée. Là, vraiment, ça pose une difficulté. Mais il y a des solutions. Et là, on dit toujours, la France, il ne faut pas qu'elle soit trop présente ou qu'elle soit trop l'exemple à suivre, etc. Il faut un peu changer les modes de gouvernance, les modes de... Mais la France, avec l'action de l'État en mer, que conduit par exemple la Marine nationale, dont elle est française, dont elle est une spécialiste, là, il y a une solution d'efficacité, d'action, de gouvernance, de coopération qui intéresse certains pays africains et qui peut être une solution. Là, il y a une expertise, on va dire, tendue vers l'efficacité et le concret qui peut être un chemin vraiment intéressant.
Bon, on continue. Gros plan sur l'Afrique dans 7 jours dans le monde, toujours avec Olivier Zajac, avec Vincent Hugeux qu'on va retrouver dans un instant. Oui, l'économie africaine, bien sûr, est-ce que l'heure est toujours à l'afro-optimisme? Et puis on parlera aussi de tous les problèmes de gouvernance. Vous savez, ces chefs d'État qui s'accrochent à leur poste. Mais est-ce que ça va pas mieux justement? À tout de suite.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Oui, et aujourd'hui on s'arrête sur un dossier particulier dans 7 jours dans le monde, gros plan sur le continent africain. Toujours avec nous, il y a Olivier Zajac, qui est maître de conférence en sciences politiques à Lyon 3, enseignant à l'école de guerre, et qui fait paraître frontières des confins d'autrefois aux murs d'aujourd'hui. Oui, des murs qui s'érigent aussi sur le continent africain, qui n'est pas épargné en Tunisie pour pallier quelque part l'implosion du voisin libyen. Des barricades aussi entre l'Union européenne et le Maroc dans ses provinces, dans ses enclaves espagnoles également, ça et là. Et puis toujours des régions contestées. plus de 40 ans après, la question du Sahara occidental qui n'est toujours pas réglée. Voilà, tout ça, vous l'expliquez. Voilà. Enfin, je connais ça par cœur également avec son blog L'Afrique en face, hébergé par L'Express, où il sévit comme grand reporter, justement. Et on rappelle, Reine d'Afrique, le roman vrai des Premières Dames. Tiens, justement, ici même dans 7 jours, régulièrement, notamment avec vous, Vincent Hugeon, on évoque de façon récurrente le cas des chefs d'État qui s'accrochent à leur poste. Alors, dans l'actualité récente, on a eu l'exemple de la Gambie en début d'année, l'ex-président Jammeh, qui restait à son poste, malgré la victoire d'Adama Barrow, avant de partir, Jammeh. Mugabe, en début d'année, joyeux anniversaire, 93 ans, il compte rempiler en 2018, plus vieux dirigeant de la planète. Et sa femme, elle dit, même après sa mort, ils voteront pour son cadavre. Joseph Kabila, toujours au pouvoir de la RDC, prolongé de quelques mois en attendant un scrutin présidentiel. Voilà, le pays qui s'enfonce dans le désordre. Idriss Déby, président du Tchad depuis plus d'un quart de siècle. Et puis l'exemple du Gabon, récent, en août 2016, avec ce qui est apparu comme des tripatouillages dans l'ethnie du président Bongo. Allez, voilà, c'est quelques exemples parmi d'autres.
Alors, précisément, la bonne nouvelle, c'est effectivement l'issue du bras de fer gambien.
Très bien.
Ce petit pays enfoncé en doigt de gant dans le flanc du Grand Sénégal, qui avait à sa tête depuis plus de 20 ans une sorte de Père Ubu africain qui était à la fois hanté par l'autoritarisme qui était le sien et aussi par ses capacités de roi thaumaturge, puisqu'il prétendait par exemple avoir inventé un onguent verdâtre qui permettait de guérir tous les maux, y compris le sida. Ouais. Et là, je ne souris plus parce que vous imaginez le type
catastrophe.
De conséquences désastreuses que ceci peut avoir. Donc, on a réussi. Et d'ailleurs, avec l'engagement des pays de la CEDEAO, les pays voisins, le Sénégal, etc.
Qui ont débarqué même sans coup de feu. Hein, voilà.
Voilà.
Ça a fait peur,
mais
il est parti. Voilà.
Etc. Bon. Mais
il est parti d'ailleurs en Guinée équatoriale chez un autre grand démocrate. Hein.
Voilà, voilà. Il y a pas
Théodore
Obiang. Voilà. Exactement, exactement. Simplement, ce n'est pas ce rayon de soleil qui permet d'illuminer tout le continent. Parce que vous avez le cas effectivement du Gabon, où très clairement, vous avez une élection frauduleuse, et ceci a été parfaitement établi,
bien sûr,
qui finit par être validée au nom du sacro-saint principe de la stabilité. Mais c'est là où je crois qu'il y a une erreur fondamentale d'analyse. C'est que ce qui me frappe le plus depuis quelques années, c'est le fait qu'il y a une sorte de dérive des continents entre des sociétés civiles. Alors je sais que le mot est un peu valise, est un peu tiroir, c'est un peu commode, mais en tout cas, cette sorte de bouillonnement qui vient de la jeunesse, des associations, des ONG, etc., etc., qui exige d'entrer dans la modernité politique, et des potentats qui, eux, sont encore agrippés à des pratiques qui sont totalement anachroniques. Et ce qui est le plus inquiétant, à mon sens, si on raisonne maintenant en termes régionaux, c'est que vous avez donc ce bouillonnement que j'évoquais à l'instant, qui est assez prometteur, plutôt en Afrique de l'Ouest. Vous avez par exemple au Sénégal, vous avez le Ghana, avec une sorte de validation récurrente de la démocratie installée par des scrutins qui se passent correctement. Vous avez eu bien sûr l'échec de la tentative de régression putschiste au Burkina Faso. Et en revanche, vous avez en Afrique centrale la persistance de ces pratiques archaïques que j'évoquais à l'instant. Moi, je suis assez préoccupé par ce qui adviendra du Cameroun lorsque Paul Biya ne sera plus en mesure de le gouverner. Le gouverne-t-il vraiment, d'ailleurs, celui qu'on surnomme là-bas l'omni-absent, puisqu'il passe quand même plus de temps sur les rives du lac Léman ou en Talasso à la Baule que dans son pays. Vous évoquiez à juste titre l'immense RDC, l'ex-Zaïre de Joseph Kabila, qui, par différents stratagèmes, a réussi à reporter l'échéance électorale. La Constitution lui interdit de briguer un troisième mandat.
Et non, il veut quand même en faire un.
Ce que beaucoup redoutent, c'est qu'il réussisse par ce tour de passe-passe, ce jeu de bonneteau institutionnel, à prolonger son bail. Donc, vous êtes exactement en Afrique, en ce moment, dans ce tiraillement-là, entre un appétit. N'oublions pas que cette jeunesse dont on parle, elle est formidablement mondialisée. Vous avez 850 millions de téléphones portables en Afrique. Donc, ça veut dire que ces gens-là...
Et avec une Afrique qui est de plus en plus terre de numérique, voilà, hein, bien sûr.
Qui veulent,
si ça se développe beaucoup, c'est là-bas. Hein.
Voilà. qui disent, voilà, moi, je suis engagé dans un combat, je veux que mon vote compte, etc. Et donc, cette vieille génération qui s'agrippe. Et dont, évidemment, et je termine là-dessus, dont le vieux comrade Bob, comme on l'appelait du temps de la lutte contre l'apartheid,
contre l'apartheid,
n'oublie pas
bien sûr.
Que ce personnage, aujourd'hui, honni pour d'assez bonnes raisons, a été l'un des héros de ce qu'on appelait la ligne de front, c'est-à-dire la lutte contre l'apartheid et le soutien à l'ANC d'Nelson Mandela. Quelle dérive, quelle dérive pathétique. Ouais. Et donc, ce genre de personnage est en train de verrouiller, de bloquer, et effectivement, d'inciter une bonne partie de l'intelligentsia locale à trouver le salut dans la fuite. Vous avez aujourd'hui à Londres, je dirais, de quoi faire un gouvernement zimbabwéen.
Tout juste. Olivier Zajac, alors, peut-être qu'il y a du mieux en matière de gouvernance. En tout cas, il y a une pression. Pression également sur la justice, parce que on voit donc des tyrans qui s'exilent. On citait le cas de Jammeh, donc bien de Gambie vers la Guinée équatoriale. Mais malgré tout, est-ce que la justice ne se fait pas de plus en plus pressante? Au Burkina Faso, procès incertain de l'ancien président Blaise Compaoré en fuite en Côte d'Ivoire, poursuivi avec d'anciens ministres après une répression violente. On a vu à Dakar la condamnation définitive il y a quelques mois de Hissène Habré, l'ancien président du Tchad, pour des massacres commis dans les années 80. D'anciens chefs d'État poursuivis en Afrique, est-ce que ça devient maintenant la règle?
Non. Non, ce n'est pas la règle. Et ça ne sera pas la règle avant un certain temps, parce qu'il y a deux mouvements, en réalité. Et ce que vous décrivez très bien, c'est cette, effectivement, conscience, alors je n'aime pas trop le mot, mais conscience, effectivement, d'une mondialisation qui, du point de vue des pratiques, de la justice, de la définition d'une gouvernance, induit les générations, les nouvelles générations des élites africaines à prendre en compte cette communauté internationale, ses valeurs et ses principes. Et de l'autre côté, c'est un peu le consensus de Washington, le consensus de Pékin. Vous avez aussi une logique qui est fondée sur les souverainetés, qui est fondée sur l'indépendance des États, etc. Qui fait que, on nous dit, mais ceux qui sont traduits devant la justice internationale, ce sont ceux qui ont perdu, ceux qui ont été renversés, ce sont les faibles, ceux qui sont qui n'ont pas réussi à maintenir leur pouvoir. Si vous maintenez votre pouvoir, si vous êtes fort, si vous êtes vous appuyez suffisamment sur des groupes qui vont vous soutenir, vous ne passerez jamais. Donc il y a deux choses là-dedans, et là ça ouvre aussi sur l'influence occidentale en Afrique et l'influence d'autres puissances qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas les mêmes standards, qui n'ont pas les mêmes principes. Et les Africains jouent, ou certains dirigeants africains jouent un peu des deux. Mais effectivement, Vincent l'a très bien montré, il y a un bouillonnement, il y a une demande, il y a une pression, et la question c'est de savoir jusqu'à quand ça va pouvoir durer. 2020, Alassane Ouattara passe la main ou pas, mais on est en Côte d'Ivoire, va voir ça, en Côte d'Ivoire, même des États qui sont stabilisés, le travail qui a été fait par la Force Licorne, par la France, par la communauté internationale en Côte d'Ivoire doit être salué, il y a eu quand même un investissement. Ça ne veut pas dire qu'en 2020 tout ne va pas recommencer. Donc l'instabilité, elle est encore là, hein. Les logiques claniques, ethniques, de rente, de clientélisme sont toujours là.
Un mot, Vincent, je voudrais qu'on parle d'économie.
Oui, un mot très rapidement justement sur la thématique de la justice. Vous avez eu un phénomène patent ces dernières années de cristallisation contre la Cour pénale internationale de La Haye.
Tout juste.
Qui apparaissait aux yeux d'une bonne partie de l'intelligentsia africaine comme une cour de blancs.
Justice coloniale.
Qui s'acharnait sur les satrapes africains en laissant tranquilles ceux venus
blancs,
de notre continent.
Voilà.
Ce qui est assez intéressant là-dedans, bon d'abord, vous avez des pays qui d'ailleurs s'étaient retirés ou avaient proclamé leur volonté de le faire, qui était pour le coup l'Afrique du Sud, la Gambie justement, la Gambie de Yahya Jammeh en tout cas, et puis le Burundi. Vous avez eu cet exemple que vous citiez, celui du satrape tchadien Hissène Habré, où là ce sont des cours spéciales africaines, siégeant à Dakar,
tout juste,
qui ont conduit les débats crois, un niveau de professionnalisme reconnu, et qui ouvrent peut-être une... Ça ne veut pas du tout dire qu'il faut fermer la porte de la CPI, parce que la CPI doit administrer la preuve qu'elle n'est pas ce qu'on lui reproche d'être. Voilà. Donc là-dessus, il y a sans doute effectivement une lueur d'espoir.
L'Afrique dans 7 jours dans le monde sur BFM Business. Je me souviens quand il y a encore 2-3 ans, on parlait d'afro-optimisme. Tout le monde était béat devant l'Afrique, devant ses capacités de croissance. Il fallait miser dessus. Bon, aujourd'hui, quand on lit ce que disent le FMI, la Banque mondiale, le taux de croissance devrait continuer de descendre à son plus bas niveau depuis plus de 20 ans, sous les 2%. Alors, est-ce que l'Afrique fait encore rêver? En même temps, quand on parle d'Afrique, il n'y a pas un seul modèle, Olivier Zajac, bien entendu.
Non, il n'y a pas qu'un seul modèle. La question est celle des critères. C'est notre regard sur l'Afrique, la réalité. La Banque africaine de développement, aujourd'hui, vous savez, cette question de la classe moyenne africaine. Alors, Elle est là. Est-ce qu'elle monte en puissance? Est-ce qu'elle est structurée? La Banque africaine de développement nous dit la classe moyenne africaine, ce sont des individus, hein, des personnes, qui vivent avec entre 2 et 20 dollars par jour. C'est quand même quelque chose d'assez fragile. Ça peut aussi bien tendre vers le bas, s'effondrer, si la croissance s'enraye. Ça peut aussi permettre d'accéder effectivement à des... Bon, donc les critères sont à évaluer avec précaution. Ils sont un peu fragiles. Par ailleurs, il y a des réalités quand même. Il y a des faits qui sont lourds. Il y a des inerties. Par exemple, les villes en Afrique. Ouais. L'urbanisation. L'urbanisation aujourd'hui, les villes africaines, vous savez, sont tentaculaires de plus en plus. Elles grandissent. 62% des étendues urbaines en Afrique, 62% de ces étendues urbaines sont constituées par des slums, des bidonvilles. Le taux d'accès à l'assainissement, aujourd'hui, il est 50% en Afrique, 75% dans le monde, dans les grandes villes, etc. On est quand même, oui, try Africa, il y a un afro-optimisme, l'Afrique, est-ce qu'elle est bien partie, est-ce qu'elle est partie tout simplement, etc. Là, il y a un vrai débat, mais il faut quand même regarder les faits. Aujourd'hui, il y a un retard, il y a véritablement, j'aime pas ce mot, dysfonctionnement, il y a des problèmes, et des problèmes, de véritables problèmes. Il faut regarder en face avec des logiques de corruption, des logiques de clientélisme qui empêchent justement... Ça s'améliore, mais oui, pas assez même. Vite, parce que ouais. La démographie, remarque, la jeunesse, ouais. La croissance du continent africain, bah effectivement, les services derrière ne suivent pas.
200 millions de 15-24 ans sur le continent africain, l'Afrique qui est la population la plus jeune du monde. Vincent Hugeux, c'est quoi les handicaps? On parlera des atouts quand même de l'économie africaine.
Alors ce qui est assez frappant, c'est que l'Afrique constitue une sorte de cas d'école rhétorique. Vous pouvez aligner les planètes des bonnes nouvelles et démontrer d'une manière assez convaincante que décidément c'est le continent sur lequel il faut miser. Ce qui au passage est une absurdité parce que traiter l'Afrique comme une entité homogène n'a aucun sens.
Bien.
Vous avez une flottille avec de fiers galions qui cinglent vers la prospérité et des barcasses vermoulues qui menacent de couper
la prospérité, principalement l'Afrique australe.
Oui, mais pas seulement. Vous avez, mais regardez.
Même si l'Afrique du Sud, on le disait tout à l'heure, est entrée en récession là cette année.
Non, mais vous prenez l'exemple du Nigeria, le colosse au pied d'argile, qui disputait à l'Angola le titre de premier producteur de pétrole. Donc ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'il y a une forme de dépendance. Et dès que vous avez un retournement des cours mondiaux du brut, eh bien cette incapacité, en dépit des innombrables colloques, conférences consacrées à ce sujet, à diversifier l'Afrique, et notamment à réinvestir dans le domaine de l'agriculture et de l'agrobusiness, qui est à mon avis un enjeu absolument capital.
Le Gabon le fait, on citait le Gabon tout à l'heure, vers le bois, vers l'agriculture, le Maroc qui sait faire venir des usines automobiles, par exemple, à Tanger.
D'accord, mais quand vous faites venir une multinationale malaisienne ou singapourienne qui met en coupe réglée votre forêt équatoriale, et ce qui d'ailleurs alerte considérablement les militants
les ONG,
environnementalistes locaux, ça n'est pas aussi simple.
Donc,
si vous voulez, ce qui est absolument important, c'est évidemment la fluidité des critères. Selon le classement que vous retenez, la fameuse classe moyenne africaine aujourd'hui, c'est entre 130 et 370 millions de personnes. Donc, débrouillez-vous avec ça. Non. Et puis en plus, il y a un phénomène qui est, à mon avis, encore plus cardinal. C'est que on a beaucoup raisonné en taux de croissance. Ah, on est sur une tendance lourde de 5 à 6%,
génial, bravo.
Etc. Ouais. Bon, d'abord, le taux de croissance est très inégalement réparti sur les pays. Ensuite, un taux de croissance n'a jamais nourri son homme en tant que tel. La vraie question n'est pas de savoir si vous avez de la croissance, c'est savoir ce que vous en faites. Et savoir si les plus humbles de vos citoyens touchent au moins une partie des dividendes de la croissance. Et là, on retombe sur ces problèmes de gouvernance. Absolument. De confiscation, de logique rentière. Quel est le problème des pays qui ont été si puissamment portés par l'or noir, par exemple? Bon, je pense évidemment au Congo-Brazzaville, je pense au Gabon, etc. C'est que cette malédiction... Car c'en est une, vous savez comment on l'appelle dans les bas quartiers des villes d'Afrique, hein, le pétrole, la merde du diable. Cette sorte de bénédiction-malédiction a induit des comportements rentiers qui font qu'on a d'une part totalement négligé d'autres aspects de l'activité et qu'on est entré effectivement aussi par le jeu de la corruption, des commissions, etc., dans des comportements de confiscation.
Olivier Zajec.
Et ça, sur le plan économique, c'est fondamental. On est passé... Il y a deux malédictions, effectivement, en Afrique. Il y a les malédictions de la rente. On en est habitué à une rente. Et puis la malédiction du clientélisme, des logiques ethniques, tribales, etc. Je sers d'abord ceux qui me ressemblent et ceux qui me servent moi. Bon, mais cette rente... Avant, c'était la rente postcoloniale. Hein, on était dépendant de l'ancien colonisateur, des services, etc. Mais ça s'est transformé peu à peu. Avec la fin de la guerre froide, la fin, effectivement, de l'influence directe des ex-puissances coloniales, on est passé à une rente de type international. La rente, c'est celle de l'aide internationale aujourd'hui. Et en fait, le système n'a pas changé. Il n'y a pas eu vraiment de gouvernance nouvelle.
Il y a des atouts quand même d'un mot. Voilà, espérance de vie en hausse, recul des pandémies, les dépenses des consommateurs qui vont passer. On cite la BAD, la Banque africaine de développement, de 4 000 milliards à 5 600 milliards d'ici 2025. On voit le continent aussi en pleine transformation. On parle beaucoup du numérique. Un mot, Olivier Zajac.
Là, effectivement, le continent, on le dit depuis le début de l'émission, Fabrice, l'Afrique a des potentialités, effectivement, énormes. Enfin, l'Afrique, est-ce qu'elle existe, l'Afrique ?
Les Afriques.
Il y a des potentialités énormes. Les puissances mondiales ne s'y trompent pas. L'Afrique, c'est un théâtre d'opération, c'est un champ de bataille sur le plan économique, sur le plan d'influence, sur le plan géopolitique, la Chine, l'Inde, l'Union européenne, les États-Unis. Tout est ouvert, effectivement, potentialité, mais aussi combat et combat d'influence.
L'Afrique, terre de conquête, justement, de la part des grandes puissances internationales. On continue d'en parler. Et puis tiens, où en est la fameuse France-Afrique sous l'ère Emmanuel Macron ? À tout de suite.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Oui, gros plan sur l'Afrique, encore pendant quelques minutes dans 7 jours dans le monde sur BFM Business, à la télé et à la radio. Toujours avec nous Olivier Zajac et Vincent Huge. Vous nous le disiez donc, Olivier Zajac, il y a quelques secondes, justement, eh bien, voilà, des grandes puissances internationales tentent de mettre la main sur le continent africain. C'est quoi les forces étrangères en présence, étrangères entre guillemets, bien sûr. On parlera de la France dans un instant, bien sûr, hein.
Alors, tout dépend de l'angle que l'on adopte. Est-ce que c'est une présence militaire, stratégique, politique ou économique ? En fait, il y a tout le monde. En gros, voilà. Le point de focalisation qui me semble vraiment intéressant aujourd'hui, c'est Djibouti. C'est vraiment passionnant de ce point de vue pour l'analyse. Djibouti, on a les Français, les Allemands, les Américains, les Chinois.
On rappelle juste où se trouve Djibouti et on va le mettre, c'est dans la corne de l'Afrique, c'est à l'extrême est du continent africain. C'était une possession française autrefois.
Débouché effectivement des navires qui passent par Suez, la mer Rouge, ça ouvre sur l'océan Indien. La Chine a des milliers de navires qui passent là régulièrement. Elle s'y est donc installée.
C'est le seul port étranger de la Chine.
Ah non, c'est pas le seul port étranger. Elle dispose déjà de relais, vous savez, le fameux collier de perles. Bon, on en pense qu'on en veut. Gwadar, au Pakistan. Voilà un port qui est détenu par les capitaux économiques chinois, qui est développé par les Chinois. Le Pirée, en Grèce.
Oui, oui, détenu bien sûr. Mais là, c'est le drapeau chinois.
Militaire.
Voilà, c'est ça.
Exactement.
Voilà.
C'est le drapeau chinois. Voilà. Et ils ont conduit des opérations militaires. Ils viennent d'en conduire récemment et ils tirent. La première fois, véritable opération de force, de sécurisation, parce qu'ils ont des gros intérêts économiques dans la zone. Et avec qui mettent-ils en place ces opérations récemment ? C'est discret, avec l'Inde. Le pragmatisme de la Chine. Ils mettent en place des opérations anti-piraterie dans le golfe d'Aden à partir de leur nouvelle base de Djibouti, qui est en train de monter en puissance, avec leurs concurrents régional et stratégique en Asie précisément. Pragmatisme des Chinois et qui considèrent que l'Afrique est véritablement un enjeu. Djibouti, ça c'est un point d'analyse sur lequel on peut s'accrocher, mais en fait c'est toute la profondeur de la Chine au niveau économique, de l'Algérie jusqu'à l'Afrique. Le Zimbabwe, on en parlait tout à l'heure, vous promenez au Zimbabwe, il faut y aller, c'est vraiment intéressant, dangereux mais parfois mais intéressant. Les Chinois ils sont présents de manière très 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 profonde. Donc là effectivement, et en dehors de la Chine, on a toutes les grandes puissances qui sont en Afrique.
Les Indiens, les Brésiliens, les Américains, par exemple. Oui, les Chinois, juste, Vincent Huge, vous qui sillonnez le continent maintenant depuis des années, hein, avec notamment pour votre blog, l'Afrique en face, les Chinois qui investissent tous azimuts, hein, le disait Olivier, dans les mines, dans l'agriculture, dans le commerce, l'industrie. Bonne ou mauvaise nouvelle pour les habitants, pour les Africains, l'arrivée des Chinois ?
Alors, on est sorti d'une période qui, à mon avis, avait un aspect assez funeste, qui était... les ravages de l'inconditionnalité. Inconditionnalité politique et économique. Je m'explique. Le grand atout pour un despote africain des Chinois, c'est qu'ils venaient avec leurs capitaux quasiment illimités et qu'ils ne lui demandaient aucun compte sur sa gouvernance, le respect des droits de l'homme, etc., etc. Et dès que vous essayez de les titiller là-dessus, vous disiez, écoutez, désolé, mais bon... nous pourrons nous occuper ailleurs. Et puis il y avait l'inconditionnalité économique qui fait que le désendettement ô combien douloureux qui avait été fait au prix de plans d'ajustement structurel féroces, eh bien, ne devenait plus du tout une priorité. Et donc vous aviez un réendettement qui pouvait être assez problématique. Donc cette période-là est révolue. Pourquoi ? Parce que là encore, l'époque où vous pouviez débarquer dans l'est de l'ex-Zaïre, la République démocratique du Congo, avec vos ingénieurs, vos agents de chantier, sans l'ombre d'un permis d'exploration et d'exploitation, et commencer à travailler, cette période-là est révolue. Parce que là encore, une fois, je ne veux pas les mythifier, mais les sociétés civiles locales vous disent quoi ? Quelque chose de très simple. Il n'y a pas de raison que parce que la Chine n'a pas de passif colonial, nous accueillions d'elle ce que nous refusons des anciennes puissances qui nous ont asservis dans le passé. Donc, les Chinois eux-mêmes, d'ailleurs, en sont arrivés au stade où ils approchent parfois de partenaires, y compris français, pour affiner leur regard et se dire, bon, arrêtons peut-être un peu de nous tirer la bourre, et vous avez l'expertise historique et culturelle, nous avons la puissance
comment
de feu,
pouvons-nous est-ce travailler
qu'on
ensemble
peut ou voilà. pas travailler ensemble
voilà. Tiens, la France, ça tombe bien, Vincent Hugeot, Olivier Zajac, il nous reste très peu de temps justement dans ce 7 jours dans le monde spécial Afrique. Est-ce que l'Afrique est toujours une chance pour la France ? Est-ce que la France est toujours présente ? Hein, alors économiquement, bien sûr, et puis on parlera de politiquement. Il y a un nouveau président de la République depuis début mai en France. Allez, Vincent Hugeot de l'Express.
C'est une chance, je dirais, réciproque, mutuelle, si nous entrons enfin dans un rapport de type adulte. C'est-à-dire un rapport qui est délesté de toute une série de rancœurs et de griefs historiques. Et quand je dis cela, je serai le dernier à soutenir qu'il faut être dans le déni du fait et de la brutalité du fait colonial. Certainement pas. Certainement pas. Ce que je veux dire simplement, c'est que aujourd'hui, il ne s'agit plus, par exemple, pour un entrepreneur français, d'imaginer qu'il a une sorte de faveur automatique parce qu'il est français ou parce que l'armée de son pays a permis à tel président de s'installer sur le trône républicain que lui refusait son prédécesseur. Il faut sortir de ça. Et côté africain, je pense qu'il est absolument indispensable aussi de considérer que la France fait partie des partenaires, qu'elle a des atouts et qu'il ne faut pas non plus à rebours de ce tropisme postcolonial, l'exclure parce qu'elle est ce qu'elle a été. Donc voilà, c'est tout. Si on entre dans cette logique plus adulte, je pense qu'il y a encore effectivement beaucoup à faire, parce qu'il y a quand même un formidable tissu, à la fois d'entreprises, de coopérants, qui peut vivifier toute cette réalité économique.
Le dernier sommet Afrique-France, c'était, je crois, au Mali, donc début 2017, c'était encore François Hollande. Depuis le mois de mai, c'était Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça va changer, l'arrivée d'Emmanuel Macron dans les relations avec l'Afrique, Olivier Zajac?
Les relations avec l'Afrique, elles sont structurelles. La France a des intérêts en Afrique. L'Afrique est quelque chose d'important pour la France. Et réciproquement, les Africains voient la France comme un partenaire parmi d'autres. Et là, effectivement, il n'y a plus de délit de bonne gueule automatique, effectivement, pour les acteurs français. D'ailleurs, que ce soit sur le plan militaire, sécuritaire, stratégique, comme économique. Hein. Ça n'existe plus. C'est sans doute une bonne chose. Mais structurellement, les liens géographiques, économiques, culturels, symboliques, ça compte en politique. Ils sont importants entre la France et l'Afrique. Et très clairement, l'Afrique, elle souffre de deux choses, de ce point de vue-là, cette relation avec la France. C'est ça fait quand même 60 ans. Enfin, la repentance coloniale entretenue, la mauvaise conscience du côté français, et de l'autre côté, l'instrumentalisation de cette période du côté africain. Bien sûr, des choses qui ne... La période coloniale, est-ce qu'elle est... Mais cette instrumentalisation des deux côtés, repentance, instrumentalisation, elle ne va pas dans le bon sens pour l'Afrique. Relation adulte, c'est exactement...
C'est ce que disait Vincent Hugeot tout de suite.
C'est la bonne expression.
Donc c'est fini, la France-Afrique.
L'Afrique doit aller dans ce côté.
Vincent Hugeot. Non. Moi, ça fait 25 ans que j'entends des oraisons funèbres sur le cercueil supposé de la France-Afrique.
Tous les présidents l'ont dit.
C'est un mort qui bouge encore, et on l'a vu. Un petit mot peut-être sur le nouveau cours avec Emmanuel Macron. Bon, sa connaissance de l'Afrique n'est pas intime. Il a certes fait un stage de 6 mois au Nigeria, très bien, comme François Hollande avait fait un stage en Algérie à l'époque de l'ENA. Ce qui est intéressant à propos de l'ENA, c'est la promotion Senghor. Dans la promotion Senghor, qui est celle de Macron, vous avez aussi un certain Jules Armand Anyambousou, ancien ambassadeur du Bénin en France, qui a d'ailleurs été préfet français avant cela, qui reste un de ceux qui peuvent éventuellement murmurer à l'oreille du cheval élyséen. Et puis vous avez d'autres personnages aussi, comme Lionel Zinsou, encore un béninois.
Bien sûr.
Alors,
bien sûr.
Banque Rothschild, après tout, ça crée des liens, mais qui a été lui-même Premier ministre de son pays, l'ex-Dahomey et candidat malheureux à la présidentielle. Et puis n'oublions pas aussi que Emmanuel Macron s'appuie pas mal sur Hubert Védrine, qui avait rédigé fin 2013 un rapport justement sur le lien entre la France et l'Afrique. Donc, là encore, la clé, c'est le pragmatisme, c'est-à-dire un rapport lucide, dépassionné, exigeant. Et j'espère qu'il incarnera cette ligne-là pour effectivement que les derniers feux de la France-Afrique soient pour le coup vraiment les derniers.
C'est fini pour ce 7 jours dans le monde spécial Afrique avec Olivier Zajac. Je vous rappelle, frontières, des confins d'autrefois au mur d'aujourd'hui. Il est enseignant à l'école de guerre, maître de conférences en sciences politiques à Lyon 3. Et puis Vincent Hugeon, en attendant le prochain, je sais qu'il est en train de mettre la dernière main, justement. Il y a toujours un livre de poche, Reine d'Afrique, le roman vrai des Premières Dames, et puis son blog, L'Afrique en face, donc hébergé par l'Express. C'est fini pour 7 jours dans le monde. On se revoit vite.
BFM Business, 7 jours dans le monde.